le journal de la rédaction par vous, Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Une nouvelle étoile du cinéma français s'est éteinte hier. L'actrice Anémone a succombé à une longue maladie à l'âge de 68 ans. Dans ce journal, nous lui rendrons hommage à travers notamment son rôle culte de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure.
Et puis Gilets jaunes et syndicats vont-ils réaliser une vaste convergence des luttes aujourd'hui ?
C'est le souhait en tout cas de la CGT, mais parmi les Gilets jaunes en revanche, les avis sont partagés, nous dira Rosalie Lafarge.
Auchan annonce la fermeture de 21 magasins.
Après Carrefour, plus de 720 postes seraient menacés par ces fermetures dans la grande distribution. Le secteur s'est mal préparé à la concurrence des géants du numérique, nous dira Philippe Moati, président de l'Observatoire Société et Consommation.
Et puis dans l'actualité internationale, une manifestation surprise au Venezuela hier à l'appel de Juan Guaido.
Des violences dans le centre de Caracas hier, mais de l'espoir dans les rangs de l'opposition. Nous entendrons l'une de ses porte-paroles.
Alors que notre caravane des Européennes de France Culture s'arrête aujourd'hui en Italie.
Analyse de la place de Rome aujourd'hui dans l'Union Européenne. À moins d'un mois du vote aux élections législatives, nous rejoindrons notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti. Et puis la question du jour, Florian.
Que va changer la retraite par points ? On posera la question tout à l'heure à Florence Legros.
Elle avait fait rire, elle avait fait pleurer aussi plusieurs générations. Anémone, grande figure du cinéma français, s'est éteinte hier à l'âge de 68 ans. Parmi ses rôles devenus cultes, il y avait celui de Marcel, la femme de Pélo, jouée par Richard Bourringer dans le film Le Grand Chemin. Un film pour lequel Anémone avait décroché le César de la meilleure actrice en 1988.
Mais reconnais-le au moins ! Tu tournicotes, tu finasses. T'es là comme une grosse araignée à préparer ton coup. Je te connais trop pour pas te deviner, va. Ah non, tu vas m'écouter, c'est trop facile de se défiler.
Il va, ma pauvre Marcel.
Mais avoue-le, du jour où t'as compris qu'il s'attachait, t'as tout fait pour l'éloigner de moi, cet enfant.
Tu pleures ?
Qu'est-ce que tu racontes ? Je pleure pas, je mouche.
Anémone, en plus de 50 ans de carrière, l'actrice et comédienne aura cependant participé aussi à une vingtaine de pièces de théâtre et plus de 70 films au cinéma, dont le cultissime Père Noël est une ordure, Yann Bertrand.
C'est l'une des actrices les plus populaires qui disparaît. Anémone, ce prénom qui s'était installé dans l'histoire du cinéma, imposé en réalité par le titre de son premier film, réalisé par Philippe Garrel en 1968. Ensuite, la Parisienne en aura brûlé des planches et des pellicules. Le Splendide, évidemment, troupe iconique, elle y suscite le rire et l'émotion. C'est elle qui met en scène Le Père Noël est une ordure en 1979, avant de jouer le rôle de Thérèse au cinéma, rôle immense devant la caméra de Jean-Marie Poiret.
Joyeux Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi ? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. C'est... Ah non, voilà. Oh, écoutez.
J'espère que ça vous plaira. C'est dur avec vous, vous avez tout.
Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable.
Oh. Alors, vous n'ouvrez pas.
Elle tourne avec Philippe de Broca, Coluche, Yves Robert, Claude Lelouch, Patrice Lecomte, Tony Marshall. Reçoit un César en 1988 pour son rôle dans Le Grand Chemin. Éternelle révoltée, goûtant peu à ce monde du cinéma cynique et violent, elle avait des engagements altermondialistes pour l'écologie, la décroissance notamment. Ses saillies médiatiques ont aussi fait sa légende à force de prendre du recul. Elle s'était effacée ces dernières années, déçue d'un métier et d'un monde qui ne l'oubliera pourtant pas de sitôt.
La suite du journal avec vous, Sophie Delpont. Et ce 1er mai sera-t-il celui d'une convergence des luttes ?
Pour la fête du travail, la CGT aimerait que tous les opposants ou déçus de la politique d'Emmanuel Macron se mobilisent ensemble et non séparément. La Confédération Générale du Travail attend 233 rassemblements en France, dont un à Paris, soutenu par la FSU, Solidaire et les organisations étudiantes UNEF et UNEL. La CFDT, la CFTC, l'UNSA et la FAGE prévoient aussi un rassemblement commun à Paris en fin de matinée, tandis que Force Ouvrière laisse ses unions départementales et fédérations s'organiser. Mais qu'en pensent les Gilets jaunes ? Eh bien, ils sont partagés sur l'opportunité de suivre ou non le cortège syndical, Rosalie Lafarge.
S'il y a une journée pour se rassembler et faire fi des divergences, c'est bien aujourd'hui pour Mélodie Mirandella.
Ça va être une énorme journée de mobilisation. Ça va être énorme.
La jeune femme est devenue au fil des mois de contestation l'une des figures des Gilets jaunes parisiens.
Bah, si on peut être tous ensemble, bien sûr, forcément, on est plus forts tous ensemble. Forcément, il y a des cortèges qui vont se croiser, on va tous être ensemble. Parce qu'au final, on veut tous une meilleure vie. On veut vivre, on veut pas survivre. Donc notre cri, en fait, si on s'écoute bien, c'est ça. Donc forcément, on sera obligé de se réunir.
Mais tous les Gilets jaunes ne partagent pas cet enthousiasme. Pour Maxime Nicole, très actif sur les réseaux sociaux, manifester aux côtés des syndicats, c'est non, et pour plusieurs raisons.
Ils représentent même pas 10% de la masse salariale. Leurs manifestations n'ont abouti à rien depuis les 40 dernières années,
Et depuis 5 mois, on n'a pas eu besoin des syndicats pour être dans la rue, donc je vois pas l'utilité d'attendre quoi que ce soit de leur part. S'ils avaient vraiment l'intention de défendre l'intérêt collectif, ça ferait déjà 5 mois qu'ils seraient dans la rue sans avoir demandé rien à personne. Les revendications, elles sont apartisanes, elles sont asyndicales, elles sont d'intérêt collectif, et ils veulent venir, qu'ils viennent sans étiquette et sans leur drapeau.
La récupération ne marchera pas, promettent une partie des contestataires. Et s'il n'y aura de toute façon certainement pas un seul cortège à Paris, par exemple, nul doute que certains défilés se croiseront dans la capitale, sous l'œil attentif des 7400 policiers et gendarmes mobilisés.
Et sur le plan de l'organisation politique, il y aura bien une liste estampillée gilets jaunes pour les élections européennes. Elle a été déposée hier par le chanteur Francis Lalanne et ses colistiers. Plus de précisions à 7h30 sur France Culture. Alors que le ministre de l'Intérieur a mis en avant la menace de violence en ce 1er mai, 1000 à 2000 activistes radicaux seraient attendus aujourd'hui, selon Christophe Castaner. Une situation de tension potentielle qui inquiète les députés qui effectuaient leur rentrée hier à l'Assemblée nationale. L'opposition a interpellé le gouvernement sur ce sujet lors des questions au gouvernement hier après-midi et de nombreux élus ont fait part de leurs craintes dans les couloirs du Palais Bourbon. Stéphane Robert.
L'inquiétude hier après-midi dans l'hémicycle à l'Assemblée s'est notamment manifestée par l'interpellation de la députée Les Républicains Constance Le Grip, à laquelle a répondu le secrétaire d'État Laurent Nouillet.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, comment le gouvernement compte-t-il assurer l'ordre républicain dans...
Madame la députée Constance Le Grip, soyez assurée que nous ne tolérerons aucune exaction.
Si tous les députés exprimaient leur appréhension, chacun le faisait à sa façon, selon son appartenance politique. À gauche, pour le communiste Sébastien Jumel, il y a certes des risques de débordement, mais qui ne doivent pas empêcher ceux qu'ils souhaitent de manifester.
Le gouvernement doit garantir cette liberté de manifester. Pour le reste, les raisons de la colère sont multiples, et j'espère qu'on sera nombreux dans la rue le 1er mai, en résistance, mais en résistance pacifique.
À droite, le député Les Républicains Pierre-Henri Dumont estime que la violence qui va crescendo au fil des semaines est le fruit de ce que le gouvernement a semé.
Quand on cède à la violence des zadistes à Notre-Dame-des-Landes, quand on cède 10 milliards d'euros après les événements les plus violents du mois de décembre, le saccage de l'Arc de Triomphe, ça prouve et ça envoie un message qui est que, en effet, la violence permet d'atteindre les buts qui sont poursuivis, qui ne sont pas atteints par les manifestations pacifiques.
Au sein de la majorité, on s'inquiète avec un brin de fatalisme. Jean-Bernard Sempastous est député La République En Marche des Hautes-Pyrénées.
De toute façon, moi j'étais persuadé que, quelles que soient les propositions qu'allait faire le président de la République et le gouvernement, on allait avoir des gens qui étaient mécontents, parce qu'ils sont mécontents de principe. Et ils cherchent quoi? Ils cherchent à déstabiliser, c'est tout.
Malgré l'inquiétude, certains essayaient de se rassurer hier en imaginant qu'il pouvait y avoir une convergence d'intérêts entre les services d'ordre des syndicats, les gendarmes et les policiers.
Stéphane Robert. Auchan annonce la fermeture de 21 magasins. Le groupe spécialiste dans la grande distribution a perdu 1 milliard d'euros et ce sont maintenant 723 emplois qui seraient menacés selon la CFDT. Face à la concurrence des géants du commerce en ligne, le e-commerce, comme Amazon qui s'est aussi lancé lui aussi dans l'alimentaire, dans le sillage de Carrefour et de Auchan, la liste des fermetures et des suppressions de postes risque encore de s'allonger selon Philippe Moati, directeur de l'Obsoco, l'Observatoire Société et consommation et professeur d'économie à l'université Paris Diderot.
L'e-commerce, c'est des compétences numériques de gestion de l'information et de gestion des flux logistiques vers les particuliers, ce qui n'est pas du tout les mêmes compétences. Et là, ils ont pris un retard considérable et ils ont face à eux des géants du numérique qui sont nés dans le numérique et qui ont une taille mondiale qui leur permet d'aligner des moyens humains et des talents qu'aucun groupe de distribution ne pourra jamais approcher. Donc le retard qui a été pris en la matière va être payé très très cher. Et pourtant, on sait depuis fort longtemps que le capitalisme contemporain repose sur une technologie clé qui est le numérique. Ils auraient dû comprendre et anticiper que leur modèle qui reposait sur la voiture, technologie clé du Fordisme, devait s'adapter à la nouvelle technologie clé du moment et donc construire rapidement des compétences fortes en matière de numérique. Et là aussi, le court-termisme et le mimétisme qui animent cette profession a fait qu'ils ont pris un retard considérable qui risque de leur être fatal en réalité.
Philippe Moati au micro France Culture d'Hakim Kasmi.
7h09, direction le Venezuela où le chef de l'opposition Juan Guaido a lancé par surprise hier des rassemblements dans les rues la veille du 1er mai.
Oui, Juan Guaido avait appelé la population à descendre dans les rues aujourd'hui pour ce qu'il qualifiait de la plus grande manifestation de l'histoire du Venezuela. Finalement, un vaste mouvement de mobilisation de ses partisans s'est tenu dès hier dans tout le pays. Pour Isadora Zubilaga, représentante de Juan Guaido en France, l'histoire est en marche au Venezuela.
Nous sommes tous préparés et on a besoin de tous pour reconstruire le Venezuela. Tout ce qu'on fait à ces moments depuis 3 mois c'est historique, parce que vraiment, c'est une lutte d'un peuple et d'un président, d'un leadership démocratique. Il y a eu plus de 10 000 arrestations au Venezuela et jamais, jamais on a vu un étudiant, un activiste de la démocratie armé ni violent face à un régime qui opprime, qui torture, qui exile. C'est une lutte historique. Ça fait plusieurs années qu'on défend les valeurs les plus importantes de l'humanité et nous avons tous un sentiment que c'est notre responsabilité. On fera tout pour se réconcilier comme peuple de la façon la moins traumatique possible aussi.
Isadora Zubilaga est la représentante de Juan Guaido en France. Elle répondait à Valérie Crova. Dans le journal de 7h30, nous irons dans les rues de Caracas. Reportage sur place et analyse de la guerre de propagande entre les camps Guaido et Maduro dans la revue de presse internationale de Camille Magnard à 7h35. C'est le temps maintenant de la caravane européenne suite en Italie ce matin. Pays fondateur de l'Union, pays régulièrement en friction avec Bruxelles pour des questions budgétaires. Rappelons-nous le bras de fer sur le projet de budget à l'automne dernier et en raison des provocations de son homme fort, Matteo Salvini, leader des souverainistes. Bonjour Mathilde Amerti.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante en Italie, en direct de Rome ce matin. L'Italie a basculé dans un euroscepticisme flagrant.
Oui, l'Italie pourtant pays amoureux d'Europe. Les figures européennes sont italiennes. De Gasperi est considéré comme un père fondateur, au même titre que Schumann ou Adenauer. Les lieux d'Europe sont italiens. C'est à Rome qu'en 1957, on signe le fameux traité qui institue la communauté européenne sur l'île de Ventotene et que s'écrit le manifeste pour l'intégration européenne. L'Italie qui en 1999 entre dans l'euro dans un groupe de tête. Mais l'Italie aujourd'hui fâchée en effet avec l'Europe. Elle est même devenue le pays le plus eurosceptique selon l'Eurobaromètre 2019 du Parlement. Un Italien sur deux considère que l'appartenance à l'Union européenne n'est pas bénéfique à son pays. Selon ce même baromètre, si un référendum type Brexit se tenait, un Italien sur deux seulement est certain qu'il voterait pour rester dans l'Union. La cause principale de ce désamour, c'est la crise migratoire. L'Italie s'est sentie abandonnée. Alors, passe difficile ou rupture définitive, l'avenir le dira. L'Union, en tout cas, tente à y perdre. L'Italie est un de ses piliers. Elle est contributrice nette de l'Union. Elle verse plus que ce qu'elle ne reçoit. Ce qui ne trompe pas non plus, ce sont les patronymes italiens dans les institutions. Federica Mogherini est la chef de la diplomatie européenne. Antonio Tajani préside le Parlement européen. Mario Draghi préside la Banque centrale européenne. L'Italie est très représentée. Et malgré une démographie en berne, elle compte plus de 60 millions d'habitants. Elle enverra donc à Strasbourg 73 eurodéputés. C'est le troisième plus gros bataillon après l'Allemagne et la France.
Merci Mathilde Lamberti en direct de Rome pour France Culture ce matin. Et demain, la caravane des Européennes s'arrêtera aux Pays-Bas et au Luxembourg. En attendant, le temps d'aujourd'hui, un soleil dominant sur la moitié est du pays, plus de nuages sur la moitié ouest. Le matin, un temps gris le long des côtes du Nord, de la pluie annoncée l'après-midi sur le Finistère et l'estuaire de la Loire. Grand soleil en revanche au bord de la Méditerranée. Les températures sont annoncées entre 10 et 20 degrés ce matin, avec 10 degrés à Amiens, 14 à Paris, 15 à Lyon, 18 à Bordeaux, jusqu'à 20 degrés maximum, ce sera pour Perpignan.